Vous écoutez
RMC.
Et on va parler d'un monstre. Trois clubs, 975 matchs professionnels en club, 176 avec l'équipe d'Italie, une coupe de l'UEFA, 10 fois champion d'Italie, une fois champion de France, 6 coupes d'Italie, 7 super coupes, une classe stupéfiante, le tout au volant d'une Lancia Epsilon. Buffon n'aura pas marqué une génération d'amoureux de foot, mais bien plusieurs générations depuis son premier match à Parme en 95 jusqu'à son dernier match à Parme en 2023. Presque 30 ans de carrière. Il incarne, pour moi, pour beaucoup, les soirées Ligue des Champions, sans l'avoir pourtant jamais gagné. Il incarne une forme d'élégance sur et en dehors du terrain. Adversaire respecté, coéquipier adulé, joueur souriant, homme non ostentatoire. Gianluigi Buffon a mis fin à sa carrière, messieurs. C'est un crève-cœur. Et pour en parler avec nous, l'un de ses anciens partenaires est là. Jonathan Zebina nous fait le plaisir d'être avec nous dans l'after. Salut Jonathan.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Salut.
Notre spécialiste du football italien également, Yoann Crochet, est avec nous. Salut Yoann.
Salut Timothée, bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue.
Salut Yoann.
Un premier mot d'abord avec Jonathan Zebina. Comment vous avez appris cette nouvelle? On le croyait presque comment dirais-je,
immortel
sportivement parlant, Buffon, et puis finalement il arrête.
Ça devait quand même arriver.
45 ans.
Arriver à 45 ans, c'est presque un record, on va dire. Oui, ça devait arriver. En même temps, bon, quand il est parti à Parme, on avait compris qu'il était plus dans une dernière période, on va dire, un dernier club pour rendre hommage à son ancien club, son premier, on va dire, et puis surtout pour profiter du football et de ses dernières heures de passion. Donc bon, on sentait déjà que bon, ça sentait la retraite, mais en même temps, ça a duré plus longtemps que prévu, je crois. Enfin, comme d'habitude, toujours pareil, j'ai plein de surprises.
Comment il était sur le terrain? Tu étais défenseur central, tu l'avais derrière toi. Qu'est-ce que ça change d'avoir un charisme comme Buffon derrière soi?
Écoutez, à l'époque, moi, de manière très très claire, hein, c'est le meilleur gardien avec qui j'ai eu la chance de jouer. C'est disons une sécurité, pour un défenseur c'est un luxe entre guillemets, et si vous savez que vous pouvez compter sur votre coéquipier et surtout vous pouvez surtout qu'il va vous sortir les arrêts importants d'un, que ce soit un match important, que ce soit un match contre un dernier tableau, enfin bon, ça reste un joueur en plus qui était extrêmement régulier et qui était, pour moi, ce serait vraiment pas exagéré de dire que c'est le meilleur gardien que j'ai vu, en tout cas avec lequel j'ai joué, mais surtout que j'ai vu durant toute ma carrière. Il y en a pas un autre qui me paraissait plus fort que lui. On peut penser à plein d'autres, hein, mais c'était pour moi de loin celui qui représentait une certaine perfection à son poste. Voilà.
Effectivement, probablement un gardien qui restera pas loin de la vie à Chine, qui aurait peut-être pu prendre le ballon d'or en 2006, mais qui a été remis à Cannavaro. Certains le regrettent, j'en fais partie. Johan, qu'est-ce que ça a déclenché cette annonce en Italie?
Il y a un côté quand même sentimental avec Buffon, parce que la longévité de sa carrière fait qu'il a touché beaucoup de publics, en fait, des journalistes qui étaient enfants et qui sont devenus journalistes par la suite, des journalistes plus très jeunes qui sont devenus des journalistes confirmés. Donc au niveau médiatique, il y a eu vraiment une très grande résonance. Il était à la une, évidemment, des trois quotidiens sportifs italiens.
Il était à l'aise avec les médias et se présentait souvent en zone mixte.
Bien sûr, et surtout, c'était pas le robinet d'eau tiède. C'est-à-dire que un des trucs qui a été le plus souligné en dehors de ses performances sportives, c'est que c'est quelqu'un qui disait toujours ce qu'il pensait. Et que parfois, c'était un peu gênant pour quand la vie était négative, ou pour ses dirigeants, même parfois, pour des entraîneurs, parfois des coéquipiers. Mais c'est quelqu'un qui était toujours très très franc, qui disait ce qu'il avait envie de dire, ce qu'il pensait. Et par exemple, on le rapprochait beaucoup d'un Daniele De Rossi à ce niveau-là. C'est des joueurs, les champions du monde 2006, qui avaient un énorme charisme. Buffon. Moi, j'en parlais avec des préparateurs de gardiens qui ont travaillé avec lui, ou avec des adversaires. Aujourd'hui, on a des entraîneurs qui font 2 mètres, qui font 90, 95 kilos, qui sont énormes dans le but, etc. Et Buffon, il fait 1m92, mais Buffon, son charisme faisait 50% de la taille qu'il faisait dans le but, en fait. C'est un gardien, qui était, très grand dans le but, qui intimidait les adversaires, qui inspirait aussi ses coéquipiers, ses jeunes coéquipiers, qui, provoquait aussi de la crainte et un peu de stress à l'attaquant avant de l'affronter, parce qu'on savait qu'il était capable de tout arrêter, en fait. C'est un gardien très complet, c'était pas le meilleur relanceur, bien qu'il avait un jeu en pied tout à fait acceptable, mais c'est un gardien extrêmement complet dans les airs, sur sa ligne, sorti loin de son but, l'anticipation. C'est un gardien qui savait tout faire, donc forcément, quand il a en plus gagné la Coupe du Monde 2006, il a accédé à un niveau de Zoff, qui était évidemment très très réputé aussi en Italie.
De Dino Zoff.
Donc c'est vraiment un gardien qui a traversé les générations. Et forcément, il y a une vraie vague d'émotions, sachant que c'est le dernier joueur de la Coupe du Monde 2006, vainqueur de la Coupe du Monde 2006 aussi, à prendre sa retraite.
Walid, Thibaut, on est tous les trois relativement proches. Je connais pas vos âges précis, mais en termes de génération, est-ce que, comme moi, en le voyant arrêter, vous avez la sensation que c'est une partie de votre football qui s'arrête? Parce que quand on regardait le foot la semaine en Ligue des Champions, il y avait Buffon et qui nous a suivis, comme le disait très justement Johan, dans notre vie d'enfant, dans notre adolescence du football et dans notre vie d'adulte.
Ouais, c'est un peu le rôle des héros, d'identification aux héros, qui te permettent de grandir avec eux et de passer des épreuves avec eux. Moi, j'ai gardé une image de Buffon, hormis la finale 2006, bien sûr, mais une image qui, résume très bien Buffon, c'était l'accolade avec Casillas au moment, juste avant les tirs au but de huitième de finale en 2008 contre l'Espagne, remportée par l'Espagne. Huitième ou quart de finale? C'était huitième de finale. Quart de finale. Et ce qui était très marrant dans cette accolade, c'était que tout le monde était ultra tendu, parce que les Espagnols, ils avaient leur malédiction des quarts de finale, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas passé les quarts. Et lui, il était souriant, il est là, il prenait dans la main tout le monde. Et tu vois, Buffon, à chaque fois, c'était ça, c'était presque, toi, quand t'étais son adversaire, c'était presque énervant, en fait. Tu vois, alors un mec qui était à ce point détendu. Et en fait, tu parlais de charisme, Johan. Je crois que son charisme, il venait de là, de cette capacité à être souriant, affable comme ça dans n'importe quelle circonstance, et ça c'était quand même, et c'est ce qui faisait qu'il était impressionnant aussi, il dégageait une certaine sérénité. Et dernière chose, il était un des premiers à célébrer ses arrêts. C'était vraiment il faisait un bel arrêt, tout à coup il faisait comme s'il se mettait à hurler. Tu vois, c'était
avec Oliver Kahn probablement un peu de la...
Ouais, mais alors je suis pas sûr que Oliver Kahn faisait aussi souvent que Buffon, parce que Buffon, dès qu'il faisait un bon arrêt, il le célébrait.
Walid?
Non, bien évidemment que moi c'est un gardien, comme tous, on enfonce des portes ouvertes, mais qui nous a fascinés, qui nous a aussi détruits sentimentalement. En 2006, moi j'ai 13-14 ans et je pleure, je crois que j'ai un peu plus même, je pleure comme un dingue sur cette tête de Zidane qui aurait permis cette deuxième Coupe du Monde à l'équipe de France. Je crois que je démarre en 99 Parme Marseille avec ses souvenirs sur cette finale de Coupe du UEFA avec une équipe de Parme d'assassins, les Sensini, les Crespo, les Vérone, Thuram, Cannavaro, et en fait il a commencé lui aussi un peu cette vague de précocité et de cette longévité, de cette régularité.
C'était sympa, le mec avait le beau gosse au milieu des équipes d'assassins.
C'était le bon dans l'équipe de brut et de pur.
Mais moi à cette époque-là, je suis pas assez grand pour tout comprendre, mais on a ce maillot jaune de Parme, cette glissade de Laurent Blanc, donc c'est un peu mes premiers souvenirs avec Gianluigi Buffon. Et puis après l'Italie, la Juventus, le passage aussi au PSG mitigé, une légende dingue, et puis surtout une classe, quoi. À chaque fois qu'il prenait la parole, c'était d'une classe absolue. La seule fois où il a pété les plombs, c'est, je sais pas si Johan s'en rappelle,
la demi-finale
c'est contre le Real Madrid, sur Lucas Vázquez, Benacia, où il pète les plombs en conférence, en zone mixte, où l'arbitre, je crois que à ce moment-là,
on en parlera dans un
instant. C'était surprenant parce que d'habitude,
on en parlera avec Johan. C'est vrai que cette Ligue des Champions, c'est ce qui manque à son palmarès. Mais avant ça, je voulais revenir vers toi, Jonathan Zébina, qui a joué avec Gianluigi Buffon. On a parlé de ce que c'était que de l'avoir sur un terrain derrière soi, mais on est tous d'accord pour dire, parce que moi je l'ai interviewé et parce que on l'a un petit peu vu en dehors, je disais en préambule qu'il roulait en Lancia Ypsilon, c'est quand même représentatif dans un monde de footballeurs très bling bling. Quel était l'homme derrière cet immense gardien?
Tous les footballeurs n'étaient pas bling-bling.
Non, effectivement, je sais que tu n'en fais pas partie d'ailleurs.
Mais bon, je pense qu'on parle surtout de ceux qui sont bling-bling, mais le reste, ça intéresse moi. Je pense que c'est surtout ça. Mais au-delà de ça, ouais, c'était quelqu'un qui se faisait fi des apparences. Il était ce qu'il était parce qu'il était Gigi Buffon et voilà, et ça lui suffisait et il avait raison. C'était un mec bien. Enfin, moi, de tous les vestiaires que j'ai fait, de loin, c'était quelqu'un de gratuitement généreux. Je sais pas si ça se dit, mais vous me comprendrez. C'est-à-dire qu'il ne faisait jamais quelque chose pour un retour. C'est quelqu'un qui était foncièrement bon. Et sa carrière, quelque part, aussi, a été aussi longue que ça, parce que je pense que dans les moments aussi un peu compliqués, il a trouvé des gens aussi qui l'ont peut-être plus aidé qu'enfoncé, voilà, comme ça peut arriver dans une carrière, et c'était amplement mérité.
Jonathan, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui s'exprime, qu'on écoutait, j'imagine.
Moi, je me rappelle qu'au début, quand je suis arrivé à la Juve, il parlait pas beaucoup. C'est en vieillissant qu'il s'est mis un petit peu plus à parler. Mais c'est quelqu'un qui n'avait pas la capacité de le faire en termes de charisme, en termes, en termes de franc-parler, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez déjà souligné. Mais il avait toutes les caractéristiques pour être un leader. Mais il était beaucoup plus discret à l'époque d'Alex, Del Piero, enfin. Il y avait des leaders plus naturels, Fabio Cannavaro, Lilian, enfin voilà. Et après, lui, il était là et il intervenait dans les moments un peu délicats d'une saison où on avait plus besoin de, où le groupe avait plus besoin peut-être de quelqu'un pas forcément se faire rouspéter, mais plutôt une bonne parole. Et donc il était là, il intervenait 2-3 fois dans la saison. Donc c'est pas rare. C'est surtout sa présence. Après, ça reste une des personnes qui a un caractère naturel, même s'il n'a jamais joué. Donc, de toute façon, il suffit qu'il soit là. Déjà, sa présence fait du bien.
Johan, pour revenir à sa carrière, on parlait de ce trou béant dans son palmarès. Je le disais, pour moi, il incarne les soirées Ligue des Champions et pourtant, il ne l'a jamais gagné.
Ouais, parce que on l'a tellement vu avec cette longévité exceptionnelle que évidemment on a tous des souvenirs de Buffon en Ligue des Champions. Et finalement, on parlait de ce match contre le Real où après avoir mené 3-0 au Bernabéu, qui avoir refait le retard du match aller, il y a ce penalty très généreux qui est sifflé et qui éteint un peu ses espoirs de gagner la Ligue des Champions. Mais c'est en 2003 où il est le plus proche. Il a fait d'autres finales, mais c'est vraiment en 2003 où il est très proche contre l'AC Milan, où ça se termine au tir au but, où malgré un bon Buffon sur la séance de tir au but face à Seedorf et Kaladze, bah c'est quand même Milan qui s'impose. Donc
c'est fou, on en arrêtant 2 pénaltys, il a pas gagné la Ligue des Champions.
C'est ça, et en fait c'est là où il a été vraiment le plus proche, parce qu'après contre le Real ou contre le Barça avec la Juve, il y avait vraiment une classe d'écart avec ces deux clubs là. Donc ça reste évidemment bon, je suis pas sûr que ça le tourmente plus que ça quand on a ce palmarès là, cette longévité là, le respect de tout le monde. Moi j'ai lu des témoignages dans la presse italienne là ces 2 derniers jours qui sont assez dingues de champion,
Et Johan, t'as vu la vidéo qui circule là sur les réseaux où il parle de lui-même, je crois que c'est dans une émission italienne, où il dit qu'il a la chance d'être italien et que il parle notamment de Oblak, de Petrosec qui avec la République tchèque ne pouvait pas faire des gros résultats. J'ai trouvé ça je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo, l'humilité qu'il a et le recul sur sa carrière, c'est ouf.
Mais c'est aussi ça qui a amené cette longévité, hein. Je veux dire, faire l'unanimité auprès de tous tes coéquipiers, de tes adversaires, de tous tes entraîneurs en sélection nationale comme en club, c'est extrêmement rare. Et Buffon avait cette capacité-là à vraiment fédérer et à forcer le respect de tout le monde. Quand vous lisez aujourd'hui un Francesco Totti, qui est le joueur qui a disputé le plus de matchs, enfin le deuxième joueur, parce que le premier c'est Javier Zanetti, qui a disputé le plus de matchs contre Buffon, l'éloge qu'il fait de Gianluigi Buffon, alors qu'on sait les tensions qu'il y a eu entre la Roma et la Juve, et Jonathan pourrait en témoigner, ça prouve quand même quelque chose, c'est que ce joueur-là était vraiment à part, au-dessus des autres, ce qui explique qu'aujourd'hui c'est, comme le dit la presse italienne, un mythe.
Jonathan Zebina, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'être venu témoigner sur ce qu'était Gianluigi Buffon dans une cage. Je pense que vous serez d'accord avec moi que une autre ère de Gianluigi Buffon va s'ouvrir dans quelques temps et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Justement, non, avec son franc-parler.
Il devient directeur institutionnel de la
fédération.
De la fédération. Et après, à mon avis, derrière Mancini.
Ok. Oui. Merci beaucoup, Jonathan Zébina. Merci beaucoup à Yann Crochet d'avoir été avec nous.